Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On parle de sport, c'est reparti et ça devrait être assez historique à la rentrée de septembre pour les salles de fitness. On parle de tout cela avec Philippe Hermette, le PDG de Fitness Park et notre grand témoin aujourd'hui à Fitness Park. C'est le leader en France des salles de sport.
Et on en a trouvé un autre, hein, parce que faire du sport, ça fait du bien. Et bonjour Laurent Frétrich.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de MoveLab. Vous existez depuis 2016 et vous proposez des cours virtuels, hein, conçus pour les salles de fitness. Hein. Vous êtes nombreux sur ce secteur. Qu'est-ce qui compte-t-il de différent, ces cours? En gros, on va dans une salle de fitness et là, au lieu d'avoir un coach en chair et en os, on a une vidéo.
Alors, effectivement, on fait des cours non pas virtuels, mais interactifs. Ils sont effectivement, vous le disiez, en vidéo. Notre métier chez MoveLab, c'est vraiment la mesure de l'activité sportive pour le fitness. Et grâce à des capteurs intelligents qu'on a développés chez nous, hein, chez MoveLab, grâce notamment au CEA Leti à Grenoble, on est en mesure de capter l'ensemble des mouvements, que ce soit sur machine, donc ça c'est assez facile, un vélo, un rameur, mais aussi en poids de corps, c'est-à-dire pompe, abdos, squat.
Et c'est ça qui est vachement intéressant dans votre activité. C'est certes des cours virtuels, mais grâce à cela, vous pouvez vraiment mesurer en temps réel et de façon totalement personnalisée l'impact que chaque mouvement, presque d'une certaine manière, peut avoir. C'est ça, hein, vraiment la force de votre dispositif. Hein.
La force du dispositif, c'est vrai que le cours vidéo existe déjà depuis de nombreuses années. Là, on a des cours vidéo sur lesquels le coach va vous montrer les mouvements, bien vous les montrer, va vous incentiver.
Donc il y a quand même un coach dans la salle.
Il y a un coach sur un écran vidéo.
Ah, sur l'écran, mais il est en direct ou c'est un truc enregistré?
Non, c'est un truc enregistré. Okay. Ses répétitions et son rythme sont mesurés, donc vous les voyez apparaître. Mais vous, grâce au capteur que vous avez chaussé, au poignet, vos répétitions vont remonter en temps réel. Et votre rythme aussi.
Donc on va voir si on est dans le bon.
Vous savez exactement si vous êtes dans la fenêtre métabolique qu'on attend de vous. Vous savez, vous pouvez vous challenger avec le coach, mais vous pouvez aussi vous challenger avec jusqu'à 3 autres personnes avec vous.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que c'est une initiative d'opportunité, alors que pas du tout. Vous aviez lancé ça assez nettement avant le Covid.
Oui.
Vous étiez persuadé du développement de ce genre de cours. Là, vous avez eu, pardonnez-moi de dire ça, mais quand même beaucoup de chance, parce que le Covid a rendu quasiment indispensable ces cours virtuels.
Alors, je ne sais pas quelle est votre définition de la chance. Pour tout vous dire, hein, on avait commencé à commercialiser en fin 2019. On commercialise quelques salles avec des indépendants. On commercialise 15 salles avec l'enseigne Keep Cool. Et puis on ferme en mars. Donc, je ne sais pas si c'est avoir le nez creux.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce ou à cause du Covid, on a tous appris à faire du distanciel et notamment pour faire du sport. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont quand même réussi un peu à s'entretenir grâce à des tutos, grâce à des chaînes YouTube, grâce à tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça nous a permis de nous habituer. C'est en cela où je me permettais, entre guillemets, bien évidemment, d'utiliser le mot chance pour la...
Oui, non, mais je comprends. Et le point, il est là, c'est qu'en fait, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi s'entraîner chez eux, qu'ils pouvaient s'entraîner avec une interface qui n'était pas uniquement un coach en direct, qu'ils pouvaient faire autrement. Et la chance, en tout cas, que nous, ça nous a porté, c'est que ça nous a aussi obligé à accélérer. C'est-à-dire qu'on aurait pu figer les choses en attendant que ça rouvre. Ça a rouvert, on a installé quasiment une vingtaine de salles donc à fin août, puis ça a refermé en octobre. Et nous, ça a été l'opportunité de se dire, OK, bah, il faut qu'on accélère. Et ce qu'on prévoyait de faire à 18 mois, on l'a fait beaucoup plus vite. Notamment, il y a le système physique en salle qui s'appelle PlayFit et on a développé l'application mobile où vous allez retrouver chez vous, dans votre salon, les mêmes cours que vous avez en salle avec le même système de monitoring. Donc, on a accéléré pour pouvoir le proposer plus vite parce que le fitness devient hybride.
Mais on a également les capteurs à la maison ? Parce que c'est l'intérêt de le faire en salle, parce que certains pourraient se dire, mais pourquoi donc ils vendent ça en salle ? C'est que vous avez équipé vos capteurs sur des bornes.
Exactement.
Et au sein de la salle, on peut bénéficier de ça. À la maison, c'est juste de l'entretien classique, j'ai envie de dire, via vidéo.
Oui, alors les capteurs, ils viendront, et on a 18 mois d'avance, donc les capteurs, c'est encore pas pour tout de suite à la maison. Pour autant, on peut d'ores et déjà appairer un système, une montre connectée qui va permettre de remonter à minima le rythme cardiaque, Et le travail qui est fait en live. Donc, c'est bien parce que ça permet d'avoir la salle, notre croyance, pardon Philippe, on confirmera ou on infirmera, notre croyance, c'est que la salle, elle n'est plus entre quatre murs, elle est entre plusieurs murs désormais. Mmh. Et certains des gérants de salle me disent, aujourd'hui, il y a des opportunités de rachat de salle. Ils me disent, si c'est pour ouvrir une salle demain, comme je l'aurais fait il y a 2 ans, c'est pas la peine. Il faut faire autrement, il faut réfléchir autrement.
Alors Laurent Frétrich, si vous êtes aussi dans la France Bouge aujourd'hui, c'est parce que pour montrer le sérieux de ces cours, c'est aussi parce que vous avez fait appel à des influenceurs, à des coachs certifiés, hein, que vous avez vérifiés. C'est pas n'importe quoi, rien n'est laissé au hasard.
Absolument rien, et ça c'est une très bonne remarque. Et c'est aussi ça, c'est que Les gens vont en salle parce qu'ils ont de l'ambiance, ils ont des coachs, ils ont des gens de qualité. Et les programmes vidéo sont aussi vérifiés.
Et en même temps, on a l'impression qu'il y a tellement de plus en plus de coachs sportifs. Il y en a plein qui se sont inventés coach sportif pendant la pandémie sur Instagram et on y va et on s'invente coach sportif. Donc ça aussi, ça vous différencie, ce sérieux-là.
C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, je pense l'année dernière, à peu près à la même époque, il y avait un intervenant chez vous qui expliquait, qui était un kiné, qui expliquait qu'il avait retrouvé beaucoup de gens avec des tendinites et des blessures diverses et variées. Parce que quand on va sur YouTube, il y a tout. Il y a le meilleur et il y a le pire.
Bien sûr.
Quand on va dans une salle, on trouve des coachs de qualité, des équipements de qualité, des programmes vidéo de qualité. Nous, on utilise des influenceurs. Et par exemple, vous voyez, avec l'US Métro, qui est l'association sportive de la RATP, c'est 60 000 salariés, on utilise leur propre coach parce qu'ils veulent aussi maîtriser la qualité. On le fait également avec une très grosse franchise en Suisse, une franchise premium. On va également servir de leur coach.
Bien sûr. Philippe Hermet, je rappelle que vous êtes le patron de Fitness Park, le leader en France des salles de sport. Cette crise vous a obligé à accélérer sur le numérique. Vous aussi, vous avez proposé des cours en ligne. Je crois que vous l'aviez fait aussi, hein, même avant le Covid. Mais tout ça vous a permis d'accélérer et d'une certaine manière de repenser aussi le rôle de la salle de sport.
Oui, absolument. Bon, on y pensait déjà avant parce qu'on fait évoluer régulièrement notre concept. Mais en tout cas, tout ce qui touche effectivement à la gamification, donc tout ce qui va travailler sur la motivation des clients, ça sert les intérêts. Donc ça sert... le résultat, les bons résultats pour les pratiquants.
Et vous, en tant que patron de salle de sport, est-ce que ça vous sert à quelque chose ?
Bien sûr, puisque plus on augmente les performances de nos clients, plus ils sont motivés. Là, en plus, je comprends que ça travaille aussi sur la sécurité, puisqu'on travaille sur la bonne exécution du mouvement. Je confirme que tout ce qui permet de faire du fitness, même en dehors des salles de fitness, tout ce qui permet de faire du fitness en général, sert les salles de fitness. Plus vous ferez du fitness à l'extérieur dans votre salon, plus vous aurez envie d'expérience dans les salles.
C'est combien en moyenne une salle de sport chez vous ?
C'est pas cher, c'est 29 euros par mois.
Mais ça, c'est le prix que personne ne paye. Ça en rajoute toujours des petites options en plus, non ?
Non, au contraire, vous payez 19,95 le premier mois, puis 29 euros les prochains mois. Donc tous les gens qui sont chez nous depuis 11 ans que nous existons payent 29,95 tous les mois. Alors après, il y a des options qui sont des cours collectifs, des activités en plus, mais la majorité sont vraiment sur la base.
Laurent Frétrich, vous êtes le cofondateur de MoveLab. Combien de salles sont équipées de vos vidéos et de vos capteurs pour faire du sport ?
Une trentaine de salles à aujourd'hui. Alors, on va le trouver surtout dans l'est de la France parce que le siège est à Grenoble, depuis Aix-en-Provence jusqu'à Lille, avec une partie donc très présentielle, physique avec la borne. Et puis sinon, on va retrouver l'application. On va retrouver l'application mobile, les programmes d'application mobile.
Pardon ? Ça coûte cher avec les achats intégrés. Ça coûte combien l'appli ?
L'application mobile, elle va être vendue à la salle aux alentours de 2,50 €. Donc c'est pas très cher et elle peut soit l'offrir, soit la proposer en
service additif.
En service additif. Ça s'appelle MoveLab, des cours virtuels conçus pour les salles de fitness. Merci à vous Laurent Frétrich d'être venu dans La France Bouge nous l'a présenté.
Et Philippe Hermet, le PDG de Fitness Park, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge qui se remet donc au sport. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, vous l'avez entendu, beaucoup plus d'inscriptions que prévu du côté de Fitness Park et surtout une rentrée qui pourrait tout simplement être historique parce qu'il y a une demande très forte de tout ce que l'on en est pour essayer de perdre soit un petit peu de kilos ou de se remettre tout simplement un petit peu en forme. Alors justement, du côté de chez Fitness Park, Philippe Hermet, j'imagine que pendant cette période où vous étiez fermé, vous avez pas mal gambergé. Qu'est-ce que vous développez comme sport, comme activité nouvelle dans les salles de sport ? Ou est-ce qu'on reste sur du très traditionnel ?
On a tellement évolué depuis toutes ces années. Ça change quasiment tous les ans car nous testons
en
permanence.
Alors c'est quoi la mode en ce moment ?
En tout cas, comme c'est le home park, vous savez, c'est l'entraînement à domicile. Ça permet d'avoir un relais entre l'entraînement dans les salles, l'entraînement à la maison, enfin quel que soit l'endroit où vous êtes. Comme ça, ça couvre vraiment l'expérience client sur une espèce de parcours à 360 degrés. Donc, et ça, évidemment, on l'a beaucoup utilisé quand les salles étaient fermées.
Bien sûr.
Maintenant, les nouveautés, nous avons une telle diversification. On a la chance aussi d'avoir des fournisseurs d'appareils de fitness qui profitent justement de l'augmentation chaque année depuis longtemps maintenant de la demande pour nous offrir des appareils, des équipements dernier cri, dernière génération. Donc ça évolue en permanence. Et le cross-training, tout ce qui est functional training, c'est-à-dire les entraînements avec finalement peu d'accessoires ou d'appareils, mais qui utilisent beaucoup le poids de corps. C'est vraiment la grande tendance qui fonctionne très très bien.
Pour les abonnés habituels qui ont donc dû interrompre leur abonnement le temps de la crise, ils sont revenus. Comment vous avez fait pour prolonger les abonnements ?
Alors donc, pour prolonger les abonnements, d'abord on a gelé les abonnements, car ce sont des prélèvements mensuels, donc on a gelé les abonnements. Il y a certains de nos clients qui ont accepté d'être prélevés.
Ah bon ? Ils vous ont dit on veut payer même si on ne vient pas ?
On a posé la question par solidarité pour nous permettre d'avoir un minimum de trésorerie. Après ils sont compensés, donc ça reste quand même du chiffre d'affaires à zéro pendant ces mois-là, parce qu'après on les compense. Mais toujours est-il qu'on a eu quelques personnes comme ça qui nous ont aidés. Et heureusement, parce qu'on ne pensait pas quand on nous a annoncé en mars 2020 que ça allait durer aussi longtemps. Pour autant, on a surtout gelé la plupart de nos adhérents. De cette manière, on reprend les prélèvements depuis le mois de juin.
Vous avez un tout petit peu travaillé, vous, les salles de sport, pendant cette période, hein, puisque ceux qui avaient des prescriptions médicales avaient le droit d'aller dans des salles de sport. Vous en avez du coup gardé, je crois, quelques-unes d'ouvertes sur vos 235. On peut avoir une petite idée de ce que ça a représenté en termes d'activité ?
Oui, alors je pense qu'il y a à peu près, grosso modo, 10% de nos salles qui sont restées ouvertes pour accueillir le public prioritaire. Donc les gens qui souffrent d'affections longue durée, ou des gens qui sont sportifs de niveau, ou encore ceux qui préparent des concours d'entrée dans des grandes écoles sportives. Donc ça permettait d'avoir un petit peu de monde quand même dans la salle, puisque comme toutes les salles étaient fermées dans la région, les gens se concentraient sur la seule salle ouverte. Et ça, c'était bien pour l'équilibre mental et psychologique de nos employés qui avaient un travail. Parce que c'est très dur pour des sportifs, imaginez de ne plus pouvoir travailler. Ça, c'est terrible. Donc ça, c'était bien. Bon, après, il y a eu très peu d'inscriptions, évidemment, parce que le public prioritaire, c'est une toute petite cible. Donc, ce n'est pas vraiment du chiffre d'affaires, mais enfin, ça a permis de se faire du bien psychologiquement.
Il y a beaucoup de personnes qui ont eu le Covid et qui, même si elles étaient en bonne forme physique avant d'attraper cette maladie, se retrouvent là essoufflées à n'importe quel moment de la journée, fatiguées, il y a ce qu'on appelle aussi des Covid longs. Est-ce que vous recevez cette population désormais dans vos salles de sport ? Et si oui, est-ce que vous avez mis en place un programme particulier dédié à ces personnes qui ont besoin de se remettre au sport mais qui ont des séquelles encore de cette terrible maladie ?
Alors, on a très très peu, sur près d'un million de clients, on a tout, évidemment. On a bien évidemment les gens qui ont fait des formes longues du Covid, mais on en a quand même très très peu. Et quand il faut s'y remettre, alors d'abord le fitness est une très bonne thérapie. Je rappelle qu'à l'hôpital Dieu à Paris, ils ont mis une salle de fitness dans le parcours du patient pour qu'il se rétablisse du Covid. Donc c'est que vraiment...
Donc ça fait partie de la thérapie, la guérison.
Et dans le fitness, on a cet avantage, puisque c'est pas un sport où il faut marquer des points, etc. On a cet avantage de contrôler son intensité. Donc on peut être à 10% de ses capacités et puis 15% le lendemain. Oui, on peut monter très progressivement. Et c'est donc la meilleure façon de rééduquer le corps.
Mais rééduquer, c'est bien. Il peut avoir une forme de découragement pour ces personnes qui étaient en pleine santé, qui se retrouvent à être essoufflées au bout de 5 minutes de sport. Il y a un accompagnement ? Vous les avez formés, vos coachs, là-dessus ? Ou ils sont considérés comme les autres et... Voilà, quand on a été en pleine santé et que tout d'un coup on s'essouffle au bout de 5 minutes, on n'arrive pas à faire la même performance, il y a un accompagnement qui, j'imagine, doit être un peu différent, un peu du sur-mesure.
Oui, là on parle vraiment des clients qui souffrent d'une pathologie. Et dans ce cas, c'est plutôt des affections longue durée. On peut presque comparer à cela.
Les Covid longs sont considérés comme des affections.
Et là, nous avons des coachs spécialisés avec un diplôme APA, je crois, qui permet d'accompagner ces clients. Parce que le coach est formé pour ce type de cas, en fait, de pathologie.
Fitness Sport s'est développé très très vite dans ce secteur très concurrentiel des salles de sport. Certains disent que c'est même un succès assez impressionnant. Quelles sont les forces ? Quelles sont vos forces aujourd'hui du côté de Fitness Park par rapport à vos concurrents, d'après vous ?
On a le meilleur produit. Vous savez, moi, je pratique le fitness depuis donc très longtemps. Je suis un passionné et quand j'ai créé ma boîte, je me suis entouré que de passionnés. Et en conséquence, je crois que ce que nous proposons, le produit qu'on propose, est le mieux, le plus motivant. Évidemment, je me mets plus que quiconque à la place d'un utilisateur et j'ai vraiment fait des salles qui donnent envie et à tout point de vue. Donc,
vous avez l'impression que vous avez créé la salle que vous auriez aimé avoir quand vous étiez. Je rappelle, vous avez été champion de culturisme à 20 ans. Après, vous avez fait pas mal de sports de combat, du MMA, du Krav Maga. Et du coup, vous avez un peu créé la salle de sport que vous auriez aimé avoir ?
Exactement. Et maintenant, nous profitons de la digitalisation du monde, les technologies numériques, et ça rajoute de la motivation à l'expérience client.
Emmanuel le rappelait, est-ce que vous avez été vous êtes un champion de tous ces sports? Est-ce que vous, en étant grand sportif, grand champion, ça vous a aidé à développer Fitness Park?
Oh ben probablement, parce que déjà, quand j'ai ouvert ma première salle, j'avais 21 ans. Tout le monde m'a découragé de l'ouvrir. J'avais pas d'argent. Hein, donc
ça, c'est classique dans l'entrepreneuriat, en général.
On vous a découragé. On vous a dit ben quoi, ça marchera jamais.
On m'a dit, t'as pas d'argent, t'as 21 ans, qu'est-ce que tu veux ouvrir ton entreprise? Donc, si j'avais pas l'esprit de... Si vous voulez, j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter les compétitions de bodybuilding, de culturisme, pour faire de la compétition d'entrepreneuriat en ouvrant des salles de sport, finalement. Donc, heureusement que j'avais cette force. Et vous voyez, ma première salle faisait 250 mètres carrés, donc c'est assez petit. Aujourd'hui, on sort des salles, on les met, il nous faut 2 mois pour fabriquer des salles de 2 ou 3 000 mètres carrés. Là, j'ai mis presque 8 mois pour ouvrir ma première salle, pour faire les travaux, parce que je ne savais pas par quel bout commencer, j'étais qu'une bande de copains. Bon, là, j'ai commencé comme ça, en fait.
Vous allez continuer à en ouvrir, des salles, parce que vous ouvrez un rythme assez rapide hein, dans ce secteur, je rappelle. Vous en avez donc 235 partout en France, vous en avez un peu en Espagne et au Portugal. Vous allez continuer là, en ouvrir en France?
Oui, on va continuer d'en ouvrir en France. Nous estimons pouvoir en ouvrir encore 500 en France. Vous savez, on travaille avec un réseau de franchises.
500 en France? Oui,
plus de 500. Bon, il nous faut 5 ans pour en ouvrir 500. On travaille avec un réseau de...
Dans 5 ans, vous espérez en avoir 737 ou en avoir en tout 500?
Non, j'en aurai 737. En Espagne, on a commencé il n'y a pas très longtemps. On a déjà plus de 100 de nos franchisés qui ont signé des zones pour ouvrir des fitness parks là-bas. Ça va très très vite parce que la demande, encore une fois, est très forte. En fait, la demande est supérieure à l'offre. Donc, on a énormément. Je rappelle qu'en France, c'est le pays le plus en retard au niveau du taux de pénétration, avec moins de 10% des populations qui font du fitness. La plupart des autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, sont plutôt à 17-18%. Donc, il nous faut 10 ans pour attraper ce niveau. Vous prenez les États-Unis, ils sont à 23%. Donc, on a tellement de clubs à ouvrir en France.
C'est marrant
des
ce que vous dites. Moi, je ne le savais pas du tout. J'apprends plein de choses avec vous. Mais j'ai jamais eu l'impression, les rares fois, je suis allé m'inscrire à une salle de sport. Moi, je suis plutôt du genre à m'inscrire et à ne jamais y aller.
Ou 4 mois.
Voilà, ou même pour si déjà j'y allais 4 mois, je serais déjà bien heureux. Jamais on m'a dit, grosso modo, liste d'attente parce qu'il n'y a pas assez de place ou choses comme ça. Jamais j'ai eu l'impression que ce secteur était à ce point-là.
Eh ben, je sais pourquoi. Je peux vous répondre parce que vous n'avez jamais été chez Fitness Park.
C'est vrai, je vous le confirme. Je vous le confirme. Voilà. Mais il n'y en a pas juste à côté de chez moi.
Oui, c'est pour ça qu'on en a encore beaucoup à ouvrir.
Chaque jour dans la France Bouge, Philippe Herbette, on découvre une marque, un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, on s'intéresse à des icônes. Elles ont été les premières et quasiment les seules à faire des cours de gym à la télévision. Ça s'appelait l'aérobic à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui avaient un âge assez avancé, hein, ça c'était le dimanche matin à la télévision.
Bon, j'en souviens.
Et tout le monde connaît évidemment Véronique et Davina.
Oui, ça a été diffusé de 82 à 86, c'était sur Antenne 2 à l'époque. Et c'est notre culturiste à nous, Quentin Payet, qui a pris des nouvelles justement de Véronique et Davina.
Tout le monde connaît cette musique, elle est même devenue synonyme d'une époque, les années 80, c'est celle de Gym Tonic. Tout commence en 1981, deux copines, Véronique de Villèle et Martine Lahari, alias Véronique et Davina, donnent des cours de sport à Paris. Elles sont alors repérées par une productrice de télévision, Véronique de Villèle, co-présentatrice de Gym Tonic.
C'est Pascale Breugnot, productrice de France 2, qui est tombée sur un journal dans lequel on avait 17 pages de gens qui étaient venus voir nos cours dans un sous-sol au Trocadéro. Et elle a vu ce reportage en disant « il y a deux dingos dans un sous-sol au Trocadéro qui donnent des cours de folie ». Et elle nous a dit « ok, je vous rendez-vous avec vous et je veux ça à la télé ». Donc on a eu un premier rendez-vous, mais elle voulait qu'on change certains trucs, que ce soit moins dynamique, etc. Et nous, on n'était pas très emballés. Je crois qu'on ne réalisait pas très bien en fait ce que c'était qu'une émission de télé, en gros.
Elles sont alors convoquées chez le légendaire Pierre Desgroupes, patron d'Antenne 2, ancêtre de France 2. Et là, tout s'accélère.
Et on lui a vendu notre salade. Il a dit à Pascale Breugnot, écoutez, elles ont d'être tellement sûres d'elles, faisons un numéro zéro. Et puis on verra ce que ça donne. On a fait un numéro zéro, tout le monde a été emballé et c'est devenu le numéro un. On n'a rien changé, pas une virgule. Tout ce qu'on a fait dedans était enfin, de nous, voilà, etc. Les chorégraphies, les vêtements, la disposition des gens autour de nous.
Gym Tonic est diffusé le dimanche matin à partir de septembre 1981. Le concept est simple, un cours de gym filmé, la musique est à fond, les vêtements sont fluo et le maître mot est bonne humeur. Mais ce qui fait le succès de Gym Tonic, c'est surtout le duo entre Véronique et Davina.
Alors après, il y a eu évidemment la connivence entre Davina et moi qui était 100%. Donc ça se sent aussi pour des gens. Il y avait une connivence entre nous, lancer les mouvements, à toi de jouer, à moi, à toi, vas-y Véro, vas-y Davina. Et ça, c'était d'une synchronisation complètement dingue. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup sur le succès de l'émission. Beaucoup, beaucoup.
Le succès est dingue, Véronique et Davina deviennent des stars et Gym Tonic fait le tour du monde.
Le staff de Jane Fonda à Los Angeles nous a demandé si on voulait aller présenter notre émission de télé à l'Athletic Club devant un parterre de gens uniquement sur le sport. Nous y sommes allés. Qui nous a demandé si on voulait s'installer à Los Angeles avec notre formule, notre technique. On a dit que ça aurait été avec bonheur, mais on était en plein tournage et en plein boom Gym Tonic, donc il était en plein contrat de tous les côtés, hors de question qu'on fasse quoi que ce soit. Ça marchait tellement qu'on a eu beaucoup d'invités. Alors comme celle de Bernard Tapie qui a carrément fait le tour du monde, le général Bijard, Anthony Delon, la compagnie Créole, les Charlots, Jacques Dutronc. On a eu des invités incroyables, des écrivains, des prix Goncourt, de tout, tout. Et pareil, on voulait mélanger absolument tout le monde. Donc ça, ça a été des souvenirs formidables, vraiment, mais incroyables, incroyables.
Le record d'audience grimpe à 14 millions de téléspectateurs, pas mal pour une émission diffusée le dimanche matin. Mais tout a une fin, et pour Gin Tonic, c'est en 1986 que ça s'arrête. Mais pas pour Véronique et Davina. Elles ont continué à faire bouger les gens, même après l'arrêt de l'émission. Et 35 ans après, le duo est mythique, tout comme la musique.
14 millions de téléspectateurs, mais c'est ahurifiant pour de l'aérobic. On est un peu les Véronique et Davina de la France Bouge.
C'est ça, le duo fonctionne très bien.
On n'est pas loin des 14 millions d'auditeurs qu'on va remercier quand même chaque jour de nous écouter, quand même un tout petit peu plus nombreux chaque jour depuis le début de l'année.
Philippe Herbette, vous êtes le PDG de Fitness Park. Je vous propose maintenant, justement, vous êtes un coach, et bien vous allez porter votre casquette de coach pour conseiller un entrepreneur qui se lance.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1. La France bouge chaque jour. Elle ou ils tentent de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant. Attention, hein. De notre témoin du jour aujourd'hui, c'est Philippe Herbette, le PDG de Fitness Park. Et puis en plus, on a de la chance. Elle est avec nous en studio. Je peux vous dire que ça n'arrive pas tous les jours. D'habitude, elle est dans son petit bureau caché derrière son micro. Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie.
Et encore une bonne idée dans la France bouge aujourd'hui, lancée il y a seulement un mois. Bonjour Marion Lebeau.
Bonjour.
Vous avez 32 ans. Vous êtes parisienne et vous aussi, vous faites partie de ces personnes qui ont voulu changer de vie. Et vous avez eu envie de regarder le marché des apéritifs sans alcool. Vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose dans les rayons, alors vous avez osé, hein, vous avez lancé Osco Drinks, de très jolies bouteilles. Elles ressemblent un peu à des bouteilles de whisky, je trouve,
de
loin.
Gin, de gin, malt, effectivement, vous avez raison.
Alors justement,
on voit la spécialiste.
Marion, vous allez nous en dire plus. C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Bonjour à tous. Le constat est assez simple. Quand on souhaite ne pas boire d'alcool à l'heure de l'apéro, on nous propose des boissons qui sont souvent très sucrées, artificielles ou pas très fun. Avec Laura, mon associée, qui a travaillé pendant des années pour les plus grandes marques de vins et spiritueux, qui ancrent leur histoire dans un savoir-faire, et moi qui étais en cosmétique, donc un marché beaucoup plus à l'écoute des besoins des consommateurs, de la naturalité et de la santé, on a décidé de créer Osco, un apéritif sans alcool, bio et fabriqué en France. Un apéritif, traditionnellement, c'est un mélange de vin avec des herbes et une finale amère. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé le vin par du vert jus. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le jus des raisins verts qui sont cueillis avant maturité, que l'on mélange avec des plantes pour avoir une vraie complexité en bouche, un goût qui évolue, et un peu de gentiane pour avoir une douce amertume et vraiment le siroter comme un cocktail. Osco, c'est un goût unique, avec des notes méridionales et fraîches et fruitées. On dit qu'on a toute l'expérience d'un apéritif, mais sans une goutte d'alcool. Il se déguste en Osco tonique, dans un grand verre à vin rempli de glaçons. On met une dose d'Osco et deux doses de tonique.
Alors nous, pour être très honnête, on est en train de le goûter. On n'a pas les glaçons, mais on n'a pas rien de très joli verre.
Mais ça se prend avec des glaçons.
Ouais.
D'accord.
Eh bien, c'est très
pour
bon. Vous avez goûté, vous, Elisabeth, ou pas?
Pour garder la fraîcheur.
Pour garder
et justement,
la fraîcheur.
Rempli de glaçons, parce que plus on mettra de glaçons, moins on aura de dilution dans le verre.
Donc, super apéro pour la plage.
Exactement.
En après-midi avec les glaçons.
Donne juste le prix, parce que vous n'avez pas donné le prix. Ouais. Et sinon, Nathalie Carré, surtout qu'elle est en studio, va me taper dessus. 19,90€ la bouteille de 70 centilitres. C'est ça, exact. Je dis pas d'annerie.
Ouais. C'est hyper bon.
Ouais. Vous voyez, nous qui ne buvons quasiment pas d'alcool, en tout cas.
Jamais.
Bah voilà. Et ben ça peut être très bien pour nous, Elisabeth.
Très très bien. On valide. Alors je vous présente Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth.
Ça va bien ?
Bonjour Emmanuel. Ça va très bien.
Vous aimez l'alcool ?
Bah oui. C'est quoi cette question ? Oui.
Non mais plus sérieusement, Osco, vous avez étudié le projet. Oui. Vous l'avez goûté.
Mais du coup,
hein, très bien. Quelles sont les forces et les faiblesses d'Osco selon vous, Nathalie ?
Bah déjà, les forces, c'est que le concept de l'apéro sans alcool aujourd'hui est vraiment, vraiment en vogue, et notamment chez les jeunes. Alors bon, bah, désolé Emmanuel, mais notamment chez les jeunes qui ne boivent de moins en moins d'alcool.
Franchement.
Franchement, j'aurais pas dû venir. Le design de votre bouteille et l'étiquette, ça fait une cohérence très méridionale. Il y a du peps et c'est très joli à regarder. Et puis bravo pour le choix des ingrédients, avec notamment donc, le verjus vert qu'on ne connaissait pas, mais qui valorise des savoir-faire oubliés. Alors, quelques points améliorés, il n'y a pas encore le site internet, donc c'est plutôt pour en prévision du site. C'est pas simple de vendre une boisson nouvelle en ligne quand on ne peut pas la déguster. Je suppose que vous serez dans des cavistes plus tard. Donc, il faut vraiment aider l'internaute à sentir le goût à distance. Donc, je suis ravie d'être là parce qu'entre ce que vous écrivez sur votre site et ce qu'on goûte là, en fait, vous parlez beaucoup de l'amertume, qui est une saveur qui est très difficile à apprécier en général. Et en fait, ça l'est très peu. Je déteste l'amertume et en fait, ça l'est très, très peu. Donc, vraiment essayer d'expliquer plus les différentes saveurs de tous les ingrédients et leur raison d'être dans cette boisson pour trouver le juste équilibre. Et puis comme souvent, pourquoi vous ? Même si vous utilisez un procédé de fabrication différent, vous restez un apéritif sans alcool, il y en a beaucoup d'autres. Peut-être que vous pourriez moins vendre la boisson que la région, le soleil, l'expérience, l'Occitanie, comme l'a fait en fait Paul Ricard avec le pastis. Aujourd'hui, quand on dit pastis, on pense en fait sud Marseille. Et donc, racontez plus l'histoire de votre région, la marque, vos fournisseurs. Mettez des recettes régionales pour préparer un apéro occitan. Puis enfin, vous pourriez proposer à tous les Occitans délocalisés de recevoir un échantillon pour goûter. Et ils auraient une récompense pour chaque restaurateur, bar ou famille qui achèterait une boisson, une bouteille grâce à eux. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une atmosphère, une région commune autour de l'apéro Occitanie.
C'est brillant. Non mais c'est brillant Nathalie, c'est vrai. Non, plus sérieusement, c'est vrai, racontez l'histoire. Quand vous avez fait votre pitch, vous avez dit c'est fabriqué en France. Oui, mais où ? Pourquoi le verjus ? Enfin, il faut nous donner des détails pour qu'on se tourne naturellement vers votre boisson.
Oui, c'est sûr. Merci pour ce retour sur notre produit, c'est très intéressant. On prend tous les commentaires pour notre site qui va sortir dans très peu de temps. Oui. Effectivement, le verjus, en fait, c'est un point très fort de notre boisson parce que c'est ce qui nous permet d'ancrer notre apéritif dans un terroir et aussi de ne pas avoir de désalcoolisation. On a un assemblage et on ne passe pas par l'étape de désalcoolisation. On est naturellement à 0,0.
Vous êtes d'où, vous ?
De Toulouse.
De Toulouse.
Et mon associé est originaire de Marseille. C'est pour ça qu'on parle du midi.
Il faut le raconter. Parce que nous, quand on a reçu votre fiche, on est Marion Lebeau, parisienne. Maintenant, pas du tout. Il faut raconter votre histoire.
Mais je peux vous raconter l'origine de notre nom, Osco. Osco, c'est un mot en occitan qui signifie bravo, bien joué. En fait, c'était utilisé sur les marchés dans le sud de la France. Lorsqu'on pesait les ingrédients et qu'on arrivait à l'équilibre, c'est ce qu'on disait Osco. Ça veut dire qu'on y était, on était bon.
Ça doit être dans le pitch.
Est-ce que vous prévoyez d'autres déclinaisons ? Puisque typiquement, moi je trouve ça effectivement très bon, mais parce que c'est particulier grâce ou à cause de la gentiane, on ne va pas le prendre à chaque apéritif. Est-ce que vous prévoyez de développer une gamme Osco avec plusieurs saveurs ?
Exactement. On aimerait travailler une gamme Osco et on commence à travailler sur deux prochaines références. Donc, on est tout au début parce que pour créer Osco, on a mis 9 mois. On a travaillé avec plusieurs mixologues réputés auxquels on a pu faire goûter, avoir des commentaires très pertinents. Mais on est dessus.
Philippe Herbette, vous êtes notre grand témoin du jour aujourd'hui dans La France Bouge, PDG de Fitness Park. Là, vous avez mis votre casquette de coach, mais de coach entrepreneur, pas du coach pour faire du craft. Quel regard portez-vous sur ce projet d'entreprise ?
Le point commun, c'est que je m'aperçois que ça améliore la santé puisque c'est sans alcool. Moi, je trouve ça génial d'inventer encore quelque chose dans le marché du drinking parce qu'on a l'impression que tout est inventé.
Donc, vous le validez à 100%.
Ah oui, parce que c'est très bien fait.
Quels sont vos besoins aujourd'hui, Marion ? Justement, de vous faire connaître, j'imagine, de pouvoir être dans des épiceries fines, par exemple, à côté d'autres produits d'apéritif.
Oui, complètement. On est en pleine discussion avec nos premiers retailers, revendeurs. Donc, on va avoir un réseau de distribution en caviste, épicerie fine, tout ce qui va être aussi hôtel, restaurant.
Où
on a des premières adresses à Paris, quelques-unes en France aussi. Donc on les détaillera.
Le public, il est très large parce qu'il y a effectivement ceux qui ne boivent pas d'alcool tout le temps, mais aussi ceux qui ne peuvent pas en boire de façon temporaire. Je pense aux femmes enceintes qui sont souvent très embêtées parce qu'elles se retrouvent exclues de la sociabilisation, des moments sympathiques de l'apéro et tout, alors que souvent elles ont en plus un truc quand même génial à fêter. C'est un public sur lequel vous misez ?
Oui, alors on sait que c'est clairement une cible de notre produit, mais nous, on ne veut pas justement faire un produit pour femmes enceintes. Peut-être aussi en tant que femme. Mais on veut vraiment cibler des gens qui ont envie de faire une pause. C'est pour ça qu'on a une vraie complexité et cette amertume. On veut un produit qui offre une expérience très proche d'un apéritif Et quand dans une soirée, ben en fait, on va vouloir boire un verre de vin et après peut-être arrêter de boire de l'alcool. C'est là qu'on pourra boire Osco ou si certains soirs, on ne veut pas boire.
Ça s'appelle Osco. Hein. Osco qui veut dire, rappelez-nous.
Bravo, bien joué.
Bravo, bien joué Marion Lebeau. Vous êtes la fondatrice d'Osco Drinks. Merci à vous d'être venue dans La France Bouge et donnez-nous de vos nouvelles. Nous, on aime bien savoir ce que vous êtes devenue après plaisir. Votre passage.
Nathalie Carré, vous restez avec nous. Vous dormez ici. On vous retrouve demain.
On se retrouve demain.
Bon, et ben parfait. Si vous aussi, vous voulez comme ça postuler une seule adresse, mail@lafrancebouge.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Philippe Herbette, vous restez encore avec nous quelques minutes ?
Avec plaisir.
Allez, suite et fin de votre émission.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Oh là, ça passe chaque jour trop vite, mais on va se presser pour aller boire l'apéro maintenant, Elisabeth.
Avec Osco.
Avec Osco. La France Bouge, dernière partie de votre émission avec Philippe Herbette, le PDG de Fitness Park.
Et Europe 1 soutient les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. On est à plus de 35 000 offres à retrouver sur notre carte interactive par région sur europe1.fr. Et parmi les jobs à pourvoir, il y a les vôtres, Laure Cohen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de CertiDeal. C'est une entreprise qui est spécialiste dans, qui est spécialisée dans les smartphones, dans les téléphones reconditionnés. Vous existez depuis 6 ans. Vous êtes basée à Paris, 55 salariés. Et si vous êtes là en ce moment dans la France Bouge, c'est parce que vous avez 20 postes à pourvoir dans votre petit sac. Quel type de poste ?
Exactement. On a 20 postes à pourvoir dans différentes équipes, dans différents métiers. Une partie des postes vont être pour la logistique, donc CertiDeal reconditionne tout en France et du coup gère sa chaîne logistique de A à Z. Donc on a pas mal de postes logistiques, quand je parle de logistique c'est reconditionnement, c'est réparation, donc de réparateurs qu'on forme énormément chez nous en interne.
C'est ça, de ce que vous dites, il n'y a pas besoin de diplôme spécifique pour une partie de ces 20 postes parce que... Il faut juste de l'envie et pas mal de courage parce que c'est des jobs assez durs, mais vous pouvez embaucher comme ça.
Exactement, on embauche comme ça, donc ce sont des jeunes motivés, c'est de la curiosité, c'est de la motivation et effectivement pas forcément besoin de background très fort à ce niveau-là puisqu'on forme les personnes et on a un impact social, on va dire, assez positif. À côté de ça, on a des recrutements en marketing, on a des recrutements dans nos équipes support, donc support client, SAV. Donc la première qualité qu'on regarde, c'est la curiosité. Quel que soit le métier que la personne va prendre chez CertiDeal.
Ce qui est aussi,
donc c'est super important.
Ce qui est aussi très intéressant, parce que ça c'est plus rare, vous ouvrez en ce moment dans différents pays et je crois que du coup vous cherchez des personnes originaires d'autres pays mais qui auraient envie de travailler dans leur langue depuis la France pour d'autres pays.
Exactement, on centralise en fait toutes nos équipes depuis la France. Donc CertiDeal est présent en France, en Espagne, en Italie et en Belgique. Et en fait, les équipes espagnoles et italiennes sont basées en France. Et c'est ce qu'on va poursuivre dans les différents autres pays qu'on va ouvrir, qui sont les Pays-Bas, l'Irlande, le Portugal et pas mal d'autres pays en Europe.
Ce sont des postes à retrouver hein, sur Welcome to the Jungle, je crois. C'est là-dessus qu'on peut...
C'est ça, Welcome to the Jungle, LinkedIn.
Et Europe 1. Et europe1.fr, voilà. Évidemment, merci à vous.
Et ce ne sont que des CDI.
Et ce ne sont que des CDI, évidemment, il faut le mentionner.
Oui, CDI et contrats, alors c'est important de laisser la place aux jeunes, ce sont aussi des contrats d'apprentissage, des contrats
pour les former, évidemment.
On a pas mal d'alternants, exactement.
Merci à vous, Laure Cohen, vous êtes la cofondatrice de CertiDeal. Philippe Herbette, vous êtes le PDG de Fitness Park. Vous recrutez, vous, aussi ?
Oui, on recrute des conseillers fitness donc qui démarrent comme commercial, on va dire, et peuvent ensuite évoluer vers le poste de manager, puis de manager donc d'un club, puis manager de plusieurs clubs, puis d'un réseau.
Ça veut dire quoi, conseiller fitness commercial ? Ils vendent quoi ? Ils vendent des abonnements ? Ils vendent des programmes ? Ils vendent quoi ?
Ils vendent l'expérience fitness, parce que comme tout est de plus en plus digitalisé dans notre parcours client, c'est important que nous ayons affaire à une personne qui puisse guider notre client, d'abord pour l'inscription, parce que les inscriptions se font de plus en plus en ligne, et puis une fois qu'on est dans le club, pour profiter de tout l'univers du fitness, encore une fois, on a développé, nous, un produit très élaboré, et donc pour profiter de la richesse de ce que nous avons développé, il faut un conseil pour nous expliquer comment optimiser tout cela.
Ces annonces aussi sont à retrouver sur notre site internet europe1.fr. C'est la fin de votre émission. Merci à vous Philippe Herbette d'être revenu dans la France Bouge. Je le rappelle que vous êtes le PDG de Fitness Park. Merci.
Et demain, on parlera des crèmes solaires parce que l'été est enfin arrivé
avec
sur la France.
Avec un géant français.
On sera avec la patronne de Garnier chez L'Oréal qui a cette célèbre marque Ambre Solaire.
À demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.